bonjour à vous, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse, Radio Galaxie. Je suis actuellement en studio avec Marie Balaguero, Marie qui était une stagiaire chez nous il y a quelques mois et qui est maintenant sur d'autres contrées. Elle va nous expliquer tout ça. Marie, bonjour.
Bonjour.
Dis-moi Marie, depuis que tu as quitté la radio, tu as fait d'autres choses parce que l'actualité t'y a forcé. Il s'agit de quoi ?
Alors, j'ai fait du volontariat à Przemyśl, qui est en Pologne. C'est une petite ville située à environ 12 km de Medyka, la frontière avec l'Ukraine. Et je me suis retrouvée là-bas en tant que volontaire dans un centre commercial qui soit n'a pas été fini, personne n'a su me dire, soit il était en train d'être démoli et il a été mis à disposition des réfugiés. Donc voilà, je me suis rendue là-bas pour tout simplement aider autant que faire se peut. Dès le jour 1, j'avais déjà l'idée de partir, mais c'était pas possible parce que j'ai mes propres responsabilités. Et ça se prépare, un voyage comme ça, on part pas à l'arrache, comme on dit. Et du coup, j'ai pu partir, j'ai pu laisser par exemple mes enfants avec ma famille. Je me suis retrouvée très vite confrontée à la réalité de la situation, même sans tout à fait la comprendre, parce que c'est pas ma guerre, entre guillemets. J'ai pas de famille ukrainienne, j'ai personne là-bas qui a un lien avec moi, mais j'ai un lien avec l'être humain. Donc, arrivée là-bas, je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu, non plus. Même s'il y avait pas de violence ou quoi que ce soit, la situation sur place n'est pas terrible.
Alors, t'es parti donc du jour au lendemain, presque.
Oui.
Tu es arrivé à Przemyśl, voilà. Une ville de Pologne, donc,
voilà.
à la frontière ukrainienne.
C'est ça.
Et tu avais des contacts déjà avant de partir ?
J'avais des contacts que j'ai réussi à avoir grâce à Internet, à Facebook. On a créé un groupe, d'ailleurs, qui m'a permis d'avoir plus de contacts là-bas, en particulier avec une association qui s'appelle Team for UA. Et ce sont eux qui m'ont accueilli quand je suis arrivée là-bas, mais ça s'est fait vraiment très rapidement. Au début, je cherchais des convois qui veuillent bien me prendre pour aller sur place, etc. Ça a été quasiment impossible. Voilà, personne ne voulait de moi parce que j'avais pas l'expérience nécessaire pour conduire 3000 bornes. Voilà, je me suis retrouvée coincée très vite par rapport à ça, par rapport au contact. Et au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Voilà, j'ai réussi à avoir des contacts là-bas que j'ai encore maintenant. J'en ai aussi à Medyka.
Donc, tu es partie là-bas à quelle époque ?
Je suis partie, c'était du 2 au 8 avril.
Et tu y retournes ?
J'y retourne parce que j'ai eu l'impression dès le début que j'en faisais pas assez, alors que déjà être là-bas, me déplacer, faire ce que je faisais, ça aurait dû me combler, mais j'avais toujours cette impression de devoir faire plus, de devoir rester plus longtemps avec ces gens qui en ont besoin, parce qu'ils sont dans une situation où ils fuient la guerre, ils se retrouvent dans un centre commercial, donc j'y retourne.
Donc, ils retournent avec d'autres bénévoles qui sont déjà sur place également.
Oui. Au début, d'ailleurs, je partais avec mon compagnon, mais là, je pars toute seule cette fois-ci. Mais sur place, il y a d'autres bénévoles avec lesquels je travaille là-bas, comme ceux de Team for UA qui sont sur place encore, ou des bénévoles espagnols, un dont on appelle El Flaco, qui, lui, gère, par exemple, le côté espagnol de la chose.
Le côté espagnol, c'est les bénévoles espagnols.
Voilà, c'est ça. C'est ça, ils gèrent un peu les bénévoles espagnols en chiffre de nuit. Parce que nous, quand on était là-bas, on travaillait la nuit. Quoique, on a enchaîné aussi les matins, parfois. Voilà, on n'avait pas trop de limites.
Quand vous êtes là-bas, vous faites quoi ? Quand tu dis qu'on travaille la nuit, ça représente quoi ? Quelle est votre activité ?
Alors, il n'y a pas d'activité précise. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Moi, je me suis retrouvée, par exemple, à faire le ménage la nuit, à aider des gens à rentrer dans des bus ou à les aider à avoir le minimum pour passer les nuits à Tesco, c'est-à-dire les accompagner vers la salle 13. C'est une grande salle qui sert de stockage dans ce centre commercial. C'est une très, très grande salle. Et là-bas, il y avait les couvertures et tout ça. Donc, moi, j'accompagnais les personnes qui arrivaient à Tesco jusqu'à la salle 13 où on leur donnait le minimum pour pouvoir dormir ou pour pouvoir se laver parce qu'il y a des douches aussi à Tesco qui ont été mises en place. Donc il y a ça, je jouais avec les enfants. Faut savoir que là-bas, les enfants aussi n'ont pas forcément d'heure de coucher. Ce qui fait que parfois jusqu'à 4 heures du matin, il y a des enfants qui jouent au ballon. Nous, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, on est là pour les faire oublier. Donc, oublier tout le mauvais, qu'on puisse passer du bon temps ensemble. Et on joue jusqu'à 4 heures du matin, par exemple, avec eux. On surveille beaucoup aussi notre environnement. Ça, on est obligé parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui essayent de rentrer. Voilà, on fait énormément de tâches différentes. On peut aider à monter des stands, on peut traduire aussi. Moi, vu que je parle pas vraiment russe, je le comprends de mieux en mieux et je le parle un peu, mais c'est pas suffisant pour quand quelqu'un vous explique, ben, j'ai perdu quelqu'un, je retrouve pas la personne. Voilà, c'est compliqué, mais on peut aussi faire ça, les traductions et tout ça.
Là où tu es, il y a combien de personnes, combien de réfugiés qui sont là ?
Ça dépend des jours, ça aussi. L'un des derniers jours où j'étais là-bas, il y avait 600 personnes qui attendaient à la frontière du côté de Medica pour pouvoir venir jusqu'à Tesco. Et on a fait notre maximum pour faire entrer un max de personnes dans les couloirs, dans toutes les pièces, tout était rempli. Voilà, ça dépend, mais le flux est tellement irrégulier. Il y a des gens qui partent dans la nuit, il y en a d'autres qui viennent au tard ou le matin, ou il y a pas d'heure précise, c'est un peu perdu dans le temps et l'espace, on va dire. On n'arrive plus à savoir combien rentrent, combien partent au bout d'un moment. On voit juste qu'il y a vraiment des flux énormes de personnes qui passent, qui traversent Tesco.
Et ce sont des familles, des hommes, des femmes, des enfants, c'est quoi ?
En général, c'est surtout des femmes et des enfants. Il y a aussi des familles entières parce que, de ce que j'avais compris avant de partir, les hommes pouvaient quitter le pays s'ils avaient 3 enfants à charge. Donc j'ai vu des familles complètes avec des papas, des mamans, des enfants. Comme j'ai vu des mamans seules, des vieilles personnes seules aussi. Ça dépend, il y a un peu de tout.
Et les gens, lorsqu'ils arrivent à Pchemich, dans l'établissement d'accueil, oui, elles restent longtemps ou elles sont juste destinées à passer, à aller ailleurs ? Comment ça se passe ?
Alors normalement, elles sont juste destinées à passer, à aller ailleurs. Mais parfois, ça peut prendre plus de temps parce que déjà, c'est pas Tesco qui choisit où est-ce qu'on envoie les réfugiés. C'est les réfugiés qui décident dans quel pays ils vont. Ça peut prendre un certain temps. Parfois, faut convaincre les personnes de prendre le bus parce que j'ai connu par exemple une maman qui était très inquiète de faire ce voyage-là avec un bébé de 8 mois. Et je peux la comprendre, moi en tant que maman, je me dis quand même, c'est 32 heures de route, c'est 40 heures de route avec un bébé. C'est dur, mais vu la situation, faut prendre ce qu'on a. Et donc, on a mis un peu de temps à la convaincre de prendre ce bus parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres moyens pour partir.
Qui fait ce dispatching entre les différents pays, les envoie dans les bus ?
Ce sont des volontaires qui sont bien organisés. Je pense qu'ils travaillent directement avec les gouvernements parce que quand même, ils ont accès à des bus. Ils parlent vraiment avec eux. Ils sont dans des associations, par contre, contrairement à moi qui ne fais pas vraiment partie d'une association. Donc, ce sont des interprètes, mais c'est pas n'importe quel bénévole. C'est vraiment des personnes qui ont des permissions particulières, qui peuvent gérer qui va avec qui, quelle famille va avec quelle famille et tout ça.
Quelle est l'attitude des autorités polonaises ?
Honnêtement, moi j'ai eu aucun problème avec. Ils sont sur les gardes, mais plutôt ouverts. De ce que j'ai vu autour de Tesco, parce qu'ils y sont. Hein. Après, ils sont, comment dire, on a eu quelques problèmes. À un moment donné, il y avait un monsieur qui rentrait tout le temps dans la pièce où on dormait, les bénévoles. Et quand je suis allée voir les policiers la première fois, ils savaient pas comment réagir. Donc j'avoue que je pense que même eux, ils sont un peu perdus dans la situation. C'est pas toujours les mêmes non plus qui sont là. Donc c'est très particulier pour tout le monde.
Des centres comme celui dans lequel tu officies toi, il y en a plusieurs ?
Il y en a plusieurs, mais après, ils ont différentes formes. Par exemple, à Medica, ce n'est pas juste la frontière, il y a aussi un passage où on peut y rester une nuit. Il y a le convoi de la solidarité qui est là-bas, sur place. C'est une association française, justement. Et eux, ils font des convois jusqu'à Medica. Et à Medica, c'est plus comme des tentes de fortune pour vraiment une nuit rester là. Et après, il y a des bus qui amènent à Tesco, etc. Donc, je pense que c'est pas du tout le seul centre. Il y a d'autres parties de la frontière aussi qui, pour moi, sont inexplorées pour l'instant. Je pense qu'il y a d'autres centres comme Tesco.
Les gens qui arrivent là, toi qui les as côtoyés, qui sont en quelle étape psychologique?
Ça dépend. Je suis tombée par exemple sur des enfants qui n'avaient pas forcément conscience de ce qui se passait. J'ai été avec une fillette à un moment donné, on décorait Tesco avec des dessins d'enfants. Donc mon travail à moi, c'était de récupérer des dessins d'enfants pour les mettre sur les vitres, parce que c'est un centre commercial. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas d'intimité. Et là, je m'attendais à ce que la fillette me dessine quelque chose en rapport avec la guerre, je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était comme ça, je me suis dit, elle sort d'une zone de guerre, peut-être que ça ne va pas être très joyeux. Et en fait, elle s'est dessinée elle-même avec un sourire, avec des longs cheveux blonds, un soleil. Ça a été un choc pour moi de voir que elle voyait le bon côté des choses, quoi, malgré toute la situation. Elle était ouverte à dessiner, à faire ce que font les enfants. Après, j'en ai vu d'autres qui étaient malades, mais vraiment, qui en arrivant à Tesco, craquaient. J'ai eu l'opportunité de parler à un jeune Ukrainien qui voulait absolument aider, qui est devenu bénévole à Tesco. Et au fur et à mesure de notre conversation, il m'a dit qu'il ne savait pas du tout comment il se sentait. Il avait un vide en lui qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et moi aussi, mine de rien, j'étais là-bas, mais je ne savais pas comment je devais me sentir. C'est des sentiments qui se mélangent. Donc je l'ai vu autant chez les bénévoles que chez les personnes qui passent à Tesco. Il y en a certaines qui le vivent mieux que d'autres. Il y en a certaines qui, je pense qu'ils ont vécu l'horreur parce que ça se voit, ils restent dans leur coin ou ça se sent. Des personnes qui ne veulent pas forcément qu'on les remarque.
Tu vois une différence entre les anciens et les jeunes par rapport à ce que tu viens de me dire. Les anciens qui ont peut-être plus d'expérience et vu des choses que les jeunes n'ont pas forcément vues.
Honnêtement, oui, je dirais qu'ils sont plus détendus en quelque sorte. Hein.
Lesquels, les jeunes ou les plus anciens?
Les plus anciens. Ils sont plus détendus dans le sens où je me souviens de vieilles personnes qui m'ont fait des demandes que les jeunes ne faisaient pas obligatoirement. Ils se sentaient mal à l'aise de demander quelque chose, les jeunes. Alors que les plus anciens demandaient vraiment sans gêne. Par exemple, j'ai besoin de me brosser les dents. Est-ce que tu peux m'amener ce qu'il faut? On se faisait comprendre par des gestes ou des choses comme ça. Ou comme la lumière ne s'arrête jamais là-bas, il y en a qui me demandaient des masques pour dormir. Les masques contre le Covid, bah là-bas, c'est pour dormir. Sinon, on peut pas.
Tout le matériel qui est mis à disposition au centre Tesco, là, il vient d'où?
C'est des convois. C'est des convois qui viennent de pays différents. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver à Tesco. Et de toute façon, il n'y en aurait jamais assez pour pouvoir laver tout ça et pouvoir le réutiliser. Donc le problème, c'est que quand les convois arrivent, ils sont utilisés assez rapidement, tout ce qui est le matériel pour les couvertures, les oreillers, les draps de bain, tout ça, c'est utilisé à une vitesse folle. Et très souvent, on manque de ce matériel-là. Et le temps que notre convoi arrive, on ne sait jamais quand ils vont arriver à proprement parler. Il y en a qui viennent de France, de l'Allemagne, voilà.
Il y a un dispatching qui est fait aussi suivant les différents centres. Comment ça se passe? Tout arrive. Comment ça se passe?
Alors, c'est chaque association et chaque convoi qui choisit où est-ce qu'ils vont aller apporter leur aide. Donc, il y en a qui vont à Pchimich, il y en a qui n'y vont pas. Ça dépend vraiment, vraiment de chaque organisateur de convoi. Il n'y a rien qui est organisé à l'avance. Les gens, ils disent OK, on va là parce qu'ils ont des besoins. Et ils vont sur les endroits qu'ils pensent qu'il y a le plus de besoin de matériel.
C'est pas centralisé par un gouvernement ou par une ONG d'une façon générale?
Non.
Bon, tu pars comme bénévole personnel, j'allais dire,
oui.
Individu.
C'est ça.
Rejoindre des associations déjà sur place.
Oui.
Est-ce qu'il y a des ONG qui font ce travail aussi? Est-ce qu'il y a d'autres associations qui existent qui font ce type de travail?
Oui, il doit y en avoir. Bon, déjà, j'ai vu la Croix-Rouge italienne quand j'étais sur place. J'ai vu qu'il y a certaines associations qui font des petits passages qui restent pas forcément sur place. Amedica, j'ai plus vu, comment ça s'appelle, le UNHR, je crois. Eux, ils y étaient. Il y a la Fondation Leroy Merlin, qui était du côté de Medica aussi, qui a fourni une tente et tout ça. Donc je sais qu'il y a quand même des ONG ou des associations qui participent à tout ça, mais ils ne restent pas forcément sur place. la plupart des gens partent assez vite.
Et toi, si tu es revenu en France, c'est d'une part pour ta famille, mais aussi avec un objectif.
Oui, je suis venue avec l'objectif de récolter des dons pour pouvoir justement combler les besoins à Tesco ou à Medica par rapport au matériel de base, pour ce qui est de dormir, etc. Ne serait-ce que les masques si possible, ou voilà. Tout ce qui est besoin immédiat quand on n'a pas assez de matériel pour les réfugiés. Par exemple, des oreillers, des couvertures et tout ça, ça c'est le minimum basique qu'on met à disposition de la personne quand elle arrive. Et on s'est retrouvé très souvent à ne pas en avoir assez, à devoir donner d'autres couvertures pour faire oreiller, ou il y a aussi des lits qui se cassent, c'est des lits de camp, donc ça on peut peut-être aussi les remplacer, parce que à côté de Tesco, il y a d'autres centres commerciaux qui eux sont ouverts, c'est vraiment pour la vente d'objets. Donc ce que je souhaite faire, c'est, vu que je suis sur place, que je peux évaluer les besoins sur place, pouvoir les combler le plus rapidement possible, pour que tout le monde soit bien.
Donc tu es rentré en France pour lancer une campagne de dons concernant ce centre spécifique Tesco, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Comment on peut faire pour te venir en aide et apporter son soutien ?
Alors déjà, pour un premier contact, il y a marie.ukraine@protonmail.com. Ça, c'est mon adresse pour pouvoir me contacter, avoir les liens. Par exemple, on a une cagnotte Litchi. On peut la partager.
En fait, c'est ça. Donc, les gens qui veulent rentrer en contact avec toi pour soutenir ton initiative et aider l'ensemble des bénévoles qui sont sur place, ils peuvent déjà faire un premier contact avec toi avec marie.ukraine@protonmail.com, c'est ça, protonmail.com.
Oui.
Et là, ils auront un premier contact avec toi pour savoir ce qu'ils peuvent donner et comment ils peuvent te venir en aide, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et je suis disponible H24, parce que depuis que je suis rentrée, je n'ai pas fini mon travail. Je continue, donc faut pas hésiter.
Et après, tu leur donneras les informations avec la possibilité de te faire des dons. Tu acceptes quel volume de dons?
Moi, peu importe, même 5 euros, c'est déjà très bien, sachant que moi, j'achète les produits en Pologne. Et en Pologne, c'est pas le même prix qu'ici. Ici, une serviette de bain et deux gants, ça coûte 10 euros. Là-bas, pour 5 euros, je peux peut-être avoir 2-3 packs semblables à ceux vendus en France. Donc, chaque don est important. Et plus on partage cette information et plus les gens vont participer, le montant, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est chacun qui fait comme il, elle peut. Et voilà. Pour nous, ce sera déjà très bien.
Il y a la possibilité, quelque part, sur Internet, par exemple, de voir un petit peu le genre d'action que vous faites ?
Alors oui, nous avons un groupe Facebook qui s'appelle Besoins ukrainiens. Et là, on a des témoignages de volontaires qui soit étaient sur place, soit ils sont toujours. On a beaucoup de contacts vraiment avec qui on a des échanges réguliers. Donc on s'est organisé comme ça pour pouvoir s'entraider. D'ailleurs, un conseil, s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent partir, ne partez pas seul. C'est la seule chose que j'ai à dire, c'est le mieux, parce qu'il y a quand même des problèmes sur place. Mais sinon, on donne aussi des conseils aux personnes qui veulent partir, tout ça, voilà. Il y a les témoignages, un soutien psychologique pour les gens qui veulent partir, et l'organisation de convois dans ce groupe.
Donc une page Facebook qui s'appelle « Besoins ukrainiens », singulier, pluriel ?
Pluriel, c'est ça.
Et là, on aura les photos, les conseils pour partir, etc.
Voilà.
Marie Bacouze, déjà bravo.
Merci.
Merci à toi d'être passée par les studios de Radio Galaxie.
Surtout merci à vous de m'avoir écouté et de me laisser cette opportunité d'en parler, quoi. Merci beaucoup.
Et puis on garde le contact et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de temps en temps de ton action là-bas.
Oui, bien sûr.
Je rappelle, si vous avez envie de soutenir le travail de Marie, de soutenir ces associations de bénévoles, ce sont des bénévoles qui se réunissent par eux-mêmes ici dans ce centre d'accueil de Tesco,
oui,
à la frontière de Medica, donc la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Mm-hmm. N'hésitez pas à écrire, à envoyer un premier mail de contact à marie.ukraine@protonmail.com avec vos coordonnées surtout.
Oui.
Elle se fera un plaisir de vous recontacter, de vous envoyer toutes les informations nécessaires pour savoir comment vous pouvez venir en aide.
Merci beaucoup.
Et puis, ben, écoute, bon courage.
Merci.
Tu repars quand?
Je repars le 2 mai. Je pars en bus donc, pour pouvoir prendre du matériel avec moi. Mais ça fait 42 heures de route. Alors, j'en ai pour un petit moment avant d'arriver là-bas. Mais voilà, du 2 mai jusqu'au 30-31 mai, si je ne rallonge pas un petit peu plus, on verra sur place comment ça se passe.
Bon courage.
Merci, au revoir.